Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Mon Paris FM dans votre émission en direct du 13, votre émission du mercredi matin en direct, je précise bien en direct, avec aujourd'hui autour de la table Michel. Salut Michel.
Salut Claude.
Voilà, Michel a bien aimé la semaine dernière, donc du coup il a dit bah, je reviens, c'est ça hein?
Oui c'est ça.
Voilà. Derrière les manettes là-bas on a Jésôme, salut Jésôme, qui nous fait un grand coucou. Et bah, c'est le prince de la manette, hein. Il est à la réalisation, il nous rejoint aujourd'hui, on est tout content de le voir. Et puis on a deux invités aujourd'hui, on a Barbara, bonjour Barbara.
Bonjour.
Voilà, et on a Prince, bonjour Prince. Et pour tout vous dire, on était en train de discuter du magnifique habit de Prince, on était en train de discuter du Roi Lion parce qu'il a un superbe maillot, c'est pas un maillot, c'est un suite, on va dire un suite avec le Roi Lion et c'est magnifique, franchement tu es super beau, bravo, bravo, et je pense que Barbara doit apprécier aussi.
Hein? Complètement.
Complètement. Alors écoutez, d'abord des petits messages, je voudrais dédier cette émission à Caïs qui est quelqu'un qui est connu dans l'arrondissement, qui est quelqu'un qui vient d'Iran, et donc dédier aussi cette émission à tous les peuples qui se ramassent des bombes sur la gueule en ce moment. Quelles que soient leurs frontières, leur religion, leur idée, c'est toujours les peuples qui s'en ramassent plein à la tête. Et donc, je voulais leur dédier cette émission. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce conflit dans mon édito en deuxième partie d'émission. Et si vous voulez intervenir, vous n'hésiterez pas, vous pourrez tous autour de la table intervenir. Je voulais aussi vous dire combien on était content de faire cette émission. On a de plus en plus de retours, on est en train de s'installer. Les podcasts fonctionnent très bien. On est assez étonné du nombre de podcasts qui sont ou écoutés ou téléchargés. Et ça nous encourage pour la suite. On a maintenant pratiquement tout notre agenda qui est prêt jusqu'à la fin avec les associations et les je sais pas comment dire ça. On va dire les associations qui peuvent venir nous rejoindre dans le studio. On va tout de suite passer au spectacle et puis à la vie locale dans le 13e arrondissement. J'adore, franchement, j'adore, ça fait super chouette. Vous le savez certainement, les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipalement dans la France entière. Alors évidemment, à Paris, il y a une nouvelle loi qui organise ces élections dans la capitale. Vous devez voter pour une liste de conseillers d'arrondissement, puis une liste avec un deuxième vote pour les conseillers municipaux, c'est-à-dire en fait pour l'hôtel de ville. Vous vous doutez bien que cela demande une certaine organisation, une organisation très importante. Rien que dans le 13e arrondissement, il y aura 144 bureaux de vote, c'est du jamais vu. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de vous impliquer parce que en fait, la démocratie, elle ne vit que si on l'utilise. Et pour l'utiliser, il faut voter. Et pour voter, il faut une certaine organisation. Et cette organisation, elle repose sur les élus, mais elle repose aussi sur les bénévoles dont je fais partie. Et j'espère que vous allez faire partie aussi de ces bénévoles. Donc dans chaque bureau, il y a des présidents qui sont non payés, qui sont bénévoles, c'est ce que je vais faire. Mais il y a aussi des assesseurs. Ces assesseurs, ils sont aussi bénévoles. Soit ils sont désignés par des listes politiques, soit ce sont des citoyens qui vont à la mairie, qui disent bah voilà, moi je veux bien participer, je veux bien être présent. Alors attention, tenez-vous bien, de 7h30 du matin à 22h le soir. Mais je pense que c'est important pour un citoyen de participer. C'est ce que vous allez dire et c'est ce que vous allez faire, j'espère. Donc je vous invite, si vous êtes inscrit sur les listes électorales, si vous êtes électeur dans tout Paris, quel que soit l'arrondissement où vous votez, devenir assesseur au niveau des bureaux de vote du 13e arrondissement. Et puis le soir, il y a le dépouillement. Le dépouillement, c'est pareil. On vous demande tout au long de la journée de participer, de venir le soir et de dépouiller les bulletins de vote. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ouvre une enveloppe, il y a quelqu'un qui, dans mon langage, aboie, c'est-à-dire va dire « c'est telle liste, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel ». Et puis il y a deux personnes qui mettent des bâtons un peu partout. Et c'est grâce à l'implication de tous ces citoyens qui ne sont pas payés, qui sont bénévoles, que l'on peut avoir une démocratie qui fonctionne, une démocratie démocratie qui est à votre disposition et à notre disposition. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de participer, soit comme assesseur, vous faites connaître auprès de la mairie du 13e arrondissement. Vous allez là-bas, ils vous indiqueront exactement où vous devez vous inscrire, soit directement en laissant votre carte d'identité ou votre carte d'électeur quand vous allez voter pour pouvoir participer le soir. Et ça, quel que soit votre âge, si vous êtes jeune, au contraire, c'est très bien. On a besoin de jeunes pour prendre la relève des vieux. Je ne suis pas vieux, non Michel, je ne suis pas vieux, qui assume cette tâche. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire dans la vie locale que la maison des associations vient de déménager au 31 rue Bobillot. Vous savez, la rue Bobillot, c'est une rue qui prend de la place d'Italie et qui descend vers la place d'Iringis. Ils viennent d'ouvrir leurs nouveaux locaux. On reviendra dans les semaines à venir sur le fonctionnement des services de la MVAC, c'est le nom qu'on donne à la maison des associations, puisque son directeur a accepté de venir au micro dans notre émission. Alors, il viendra nous voir après les élections, parce que ce serait malvenu de venir pendant les élections, puis je crois qu'il n'a pas trop le droit. Donc, une fois que la nouvelle municipalité sera installée au niveau parisien, au niveau de l'arrondissement, son directeur viendra nous rejoindre et on discutera de tout ce que la MVAC peut offrir aux associations, mais pas simplement. Aussi, vous allez voir que ça peut s'ouvrir aux citoyens dans certaines conditions. Je vous rappelle aussi que depuis le 2 mars, c'est-à-dire depuis lundi, il y a une nouvelle ligne de bus, le 193, qui dessert le quartier Peupliers-Iringis. Alors vous me direz, c'est loin de Sauveray ou Dîner où nous sommes, mais bon, il y a tout à fait cette information a tout à fait cette place, n'est-ce pas, Prince? Puisque on se balade dans l'ensemble de l'arrondissement avec nos associations, donc vous avez un nouveau bus qui dessert Montsouris, Peupliers, Iringis, Porte d'Italie et qui retourne, donc qui va desservir le RER B, le tram 3 T3A et surtout la ligne 14. La ligne 14 qui est appelée à avoir 1 million de voyageurs par jour. C'est un truc énorme. C'est une ligne qui est très, très fréquentée et qui est superbe. Et puis, dernière petite information, on a le Repère Café qui est bien connu de nos auditeurs qui sera présent le 14 mars à partir de 14h à la Bricothèque. C'est un mot que je ne connaissais pas, la Bricothèque, qui est sur la dalle des Olympiades. Donc, si vous avez un grille-pain à réparer, si vous avez un déambulateur pour moi à réparer, si vous avez un ordinateur qui est paresseux, si vous avez une veste à recoudre, eh ben venez réparer tout ça avec les bénévoles du Repère Café. Bah, tout ça dans une excellente ambiance, dans un moment qui est très très convivial et solidaire. Voilà. Et puis, bah écoutez, j'ai encore une petite minute pour vous parler de Spot 13 dans les spectacles. Spot 13, c'est un lieu qui est situé près de la Seine, à l'entrée du périphérique Porte d'Ivry. Quand vous êtes là, vous voyez qu'il y a tout un tas de dessins. Je ne sais pas comment on dit. De
galeries.
Aidez-moi, j'ai perdu.
Des tags.
Voilà, des tags, des dessins, ainsi de suite, qui sont faits en dessous le périphérique et sur le côté. Et donc, Spot 13, qui organise ce genre de choses, va nous organiser un James qui aura lieu les 7 et 8 mars. Donc, c'est samedi et dimanche qui arrivent, avec plus de 25 artistes. Elle a noté que les activités sont ponctuées de concert de DJ, qui aura un atelier de street art à destination des enfants et entièrement gratuit, et qui sera organisé juste à côté d'un mur d'expression libre. Donc vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de dire un certain nombre de choses sur le 13e, sur Paris, sur la France, sur ce qui se passe dans le monde, et bien vous avez un mur d'expression libre. Et si vos enfants ont envie d'apprendre à faire des tags, en étant encadrés, eh bien, venez avec eux. Ça se situe donc près du périphérique, à l'entrée, près de la Seine, à l'entrée du périphérique, Porte d'Ivry. C'est les 7 au 8 mars et c'est toujours quelque chose qui se déroule dans une très bonne ambiance, entre amis, entre copains, entre gens qui ne se connaissent pas mais qui n'ont qu'une seule envie, c'est de se connaître. On va tout de suite passer à l'avis de l'association. Petit jingle et on se retrouve tout de suite. Autant tout vous dire, l'association Origine que nous recevons aujourd'hui est bien connue au centre Paris Anime au Dîner, d'où nous émettons notre émission, puisque nos invités et leur équipe interviennent régulièrement dans nos locaux. Mais je dois bien le reconnaître, je ne connais pas trop l'ensemble des actions de l'association. Nous allons donc cheminer avec eux dans notre quartier afin de mieux appréhender toutes les activités et possibilités qui sont proposées par cette belle équipe, notamment en matière de formation. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Bonjour Prince.
Bonjour, bonjour.
Si vous deviez définir votre association en deux mots, ce serait quoi ?
une association socioculturelle et éducative, on va dire.
Oui.
Déjà, plus simplement. Et qui propose, on va dire, trois actions en tant que telles. D'une part, un accueil de quartier, de loisirs de quartier pour des 6-14 ans.
6-14 ans.
Voilà. Et des formations BAFA. Et des cours de danse, ce qui a été déjà au départ la première activité de l'association.
Ah d'accord, donc vous avez commencé par la danse, voilà, et vous avez continué par le BAFA.
C'est ça. C'était un crew de danse au départ.
D'accord.
Ouais. J'étais animateur, je travaillais à Franc-Nouin là dans le 13e,
oui.
Comme animateur. Donc au détour d'un atelier proposé aux enfants, ça a marché, on a remis ça en place. Et puis bon, j'ai eu l'idée de créer un crew de danse. Donc à l'époque... je dansais et l'idée c'était...
Pourquoi à l'époque tu danses plus ?
Je performe plus. C'est-à-dire qu'à l'époque on faisait pas mal de shows, de battles, ce genre de trucs. Donc je ne performe plus mais je continue à donner des cours de danse.
D'accord. Et toujours pour les 6-14 ans ou on peut
alors
aller
là,
plus loin ?
Alors là pour le coup c'est plus large. Ça va de la maternelle aux adultes.
D'accord. Et c'est quel type de danse ? C'est danse afro ? C'est danse... c'est du twist ? Moi, parce que je vais aller sur mon... Pourquoi tu rigoles ? Ça veut dire quoi, prince ? Allez, explique-moi tout ça.
Moi-même, le twist, il faudrait que j'arrive à suivre. Non, c'est... la base, c'était le hip-hop.
Ouais.
Alors, j'appelle ça plus pour moi le hip-hop contemporain parce que très tôt, j'ai associé le hip-hop à la danse contemporaine et classique. Et après, j'aime bien... emmener les apprenants à visiter différents styles que je maîtrise plus ou moins, comme la salsa, la bachata.
Ah, la salsa aussi
voilà, la contemporaine et un peu l'afro aussi.
Ah, c'est génial ça. T'acceptes les vieux?
Oui, on pourrait. Hein. S'il y a de la demande, pourquoi pas.
Bon, bah, t'as déjà une demande, moi, un mec. Ok, Barbara, non. Comment t'es venue greffer sur tout ça, toi?
Eh ben moi, je suis venue me greffer parce que j'ai rencontré Prince dans un autre travail.
Oui.
Voilà, où on s'est croisés. On travaillait dans un organisme de formation BAFA. Il faisait des séjours de vacances, etc. Et puis, on a travaillé là-bas quelques temps ensemble. Et puis un jour, on s'est dit, allez, hop, on se lance. Et pourquoi pas créer notre propre...
Association ?
Ouais, association. Ouais. En tout cas, notre propre organisme de formation. Voilà. Passer une période dans la vie, on se dit c'est maintenant ou après, on n'osera jamais se lancer. Donc on s'est lancé.
Et ça fait combien de temps ?
Et ben c'est depuis 2018.
2018, ouais.
Ah ouais, donc c'est ouais. Pas mal, vous êtes installé déjà.
Voilà,
ouais.
À partir de 2018, l'association Origine a évolué et est devenue. On a eu l'agrément pour devenir organisme de formation. Et ben, du coup aussi, en parallèle, ben, ouvrir cet ouais. Accueil pour 6-14 ans.
D'accord. Alors on va venir un peu sur le BAFA parce que je dois dire, j'y connais pas grand chose, j'ai pas mon BAFA. Ça ne devrait pas vous étonner.
Il faut le passer. Oui. Il faut venir le passer, c'est pareil, il n'y a pas d'âge.
Pour animer le studio.
Il n'y a pas d'âge, exactement.
Donc, le BAFA, pour moi, dans ma petite tête, c'était simplement le fait de former des gens pour accueillir des jeunes dans les colonies de vacances. Voilà, c'était ce que j'avais en tête. Est-ce que ça correspond ou est-ce que c'est plus large que ça ?
Aujourd'hui, on va dire que ça s'élargit, d'autant plus qu'avec le temps, ça s'est professionnalisé. Parce qu'au départ, il faut dire, alors, on continue à mettre un peu cette caractéristique en avant, que c'est un brevet d'État qui est à destination, à usage, enfin, je vais dire ça comme ça, hein, occasionnel. Mais aujourd'hui, les gens travaillent, c'est une vraie profession en soi. C'est-à-dire que c'est plus que pour les étudiants qui devaient de temps en temps intervenir auprès des enfants. Dans les accueils collectifs de mineurs. Aujourd'hui, vous avez des gens qui en font un métier, qui vivent de ça et qui, voilà. Mais pour le coup, ça reste très ouvert, ça reste un emploi jeune pour des jeunes, des étudiants qui, entre les études ou pour financer des études ou autre chose, vont travailler avec les enfants.
Mais si tu dis ça... que... Oui, vas-y, va, Barbara.
Ouais, ce que j'allais rajouter, c'est aussi une grande porte ouverte sur plein de choses. Parce qu'on voit l'animation avec les enfants, mais ça peut être aussi après des portes ouvertes sur l'animation pour les adultes, dans les clubs de vacances, dans toutes ces choses-là. L'animation aussi dans les EHPAD. Auprès des personnes âgées, c'est pareil. Maintenant, on recherche de plus en plus d'animateurs avec le BAFA pour venir travailler dans ces domaines-là. Donc en fait, c'est aussi une ouverture Voilà, c'est une petite formation qui peut être une ouverture sur plein d'autres choses pour après.
On a même des particuliers qui interviennent. On a eu des grands-mères qui viennent juste parce qu'elles veulent s'occuper de leurs petits-enfants.
Ouais.
Des trucs
comme ça. Ouais. Ah, c'est génial ça.
J'ai eu un cas qui m'avait vraiment surpris. C'est une dame vraiment avec tout la prestance. On se demande même mais qu'est-ce qu'elle arrive. C'était une dame, elle était artificière, donc officier comme complètement. Et elle venait d'être grand-mère et elle venait passer son BAFA.
C'est génial ce truc.
Ouais.
Vous devriez faire un truc là-dessus, spécial grand-mère. Non, mais c'est vrai, en plus, je ne plaisante pas.
Mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut proposer des sessions à la demande. Après, on en parlera peut-être, mais on en viendra un peu sur ce qui suit après. Ben, on verra, parce qu'on touche même à l'Union européenne aussi, enfin, y a pas mal de trucs, quoi. C'est qu'on peut proposer effectivement des sessions à thème à la demande en fonction d'un public précis.
D'accord, ben, j'apprends plein de choses. Donc on résume, c'est quelque chose qui est ouvert aux jeunes, mais qui maintenant est ouvert vers un public beaucoup plus large, et on peut aller jusqu'au troisième âge et avoir son BAFA. Est-ce que le BAFA c'est un premier niveau, ou est-ce qu'il y a des niveaux derrière, ou est-ce que c'est juste on a le BAFA point barre, où il y a un BAFA plus, un BAFA P, un BAFA je ne sais pas trop quoi. Comment ça se passe?
Alors déjà, il faut savoir que le BAFA c'est un cursus qui se déroule en trois sessions. Ouais. On a la première session qui va durer 8 jours, où là, ils vont acquérir, on va dire, les bases des fonctions et de ce qui va être fonction aptitude de l'animateur. Mmh. Ensuite, il y a la deuxième session de 14 jours, où ils vont expérimenter ce qu'ils ont appris. Enfin, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris et expérimenter sur le terrain directement auprès d'enfants. Ensuite vient la dernière session, et là, il y a un choix à faire, parce qu'ils peuvent faire ou un approfondissement, ou dans lequel ils vont avoir un thème au choix que propose l'organisme pour développer une compétence en plus, mais revenir sur l'analyse du parcours et notamment du stage pratique, ainsi de suite. Et on a...
Je t'interromps deux secondes. Quand tu dis avoir une spécialité en plus, c'est quel type de spécialité?
Alors, par exemple, on va avoir des... Alors, ce n'est vraiment pas une spécialité en tant que telle. La spécialité arrive avec le choix de la qualification, parce qu'on peut faire ou l'approfondissement ou la qualification. L'approfondissement qui dure 6 jours, par exemple, on va proposer par exemple activité manuelle, grand jeu, petit jeu, ou
connaissance du public.
Connaissance du public, petite enfance, enfin voilà. Où là, ils vont approfondir juste le thème, le sujet. Mmh. Et la qualification qui dure 8 jours, ben là, ils vont se spécialiser donc avec un brevet en plus, comme par exemple surveillant de baignade, le canoë-kayak,
ski, voile,
assistant sanitaire, ski, voile, ainsi de suite.
Canoë-kayak, je pense que dans le 13e, on ne doit pas trop le faire, non, celui-là?
Oh, ça dépend. Avec, on avait Petit Bain à l'époque qui avait commencé à faire pas mal de choses intéressantes au niveau de la scène.
Ah, c'est bien ça.
Donc, oui, puis ça leur permet de partir après.
Après ça, effectivement, de plus en plus, les organismes vont demander des BPJEPS. Là où on reste dans l'animation, mais on dit animation professionnelle. Parce que le BAFA n'est pas un brevet d'État.
Ah d'accord.
C'est ça, on peut, je vais dire ça comme ça, le seul problème. Mais pour le coup, on a les différents BPJEPS qui interviennent, qui sont
faut que tu traduises
considérés comme étant les...
Faut que tu traduises BPJEPS.
Alors,
ça veut dire
BPJEPS,
quoi?
C'est
brevet professionnel.
Brevet professionnel, jeunesse et sport.
D'accord.
Avec
une
qualification après karaté, ça peut être quoi?
Loisirs tout public.
En fait, je me rends compte que c'est hyper large comme truc. Moi qui avais donc dans l'idée, on met quelqu'un qui a son BAFA dans un hall d'école et puis on occupe les enfants pendant une journée, ou on va en colonie de vacances et puis ils font les mêmes activités. Non, c'est beaucoup plus large.
Non,
le milieu s'est professionnalisé en fait. Là où c'était juste un petit job d'été à un moment donné, l'animation s'est professionnalisé. Les animateurs ont pris beaucoup d'importance. Dans les ACM, les accueils de loisirs, le périscolaire avec l'école. Donc, ils ont pris une place qui est plus importante. Et donc, forcément, ces animateurs qui travaillent à l'année, les formations sont doucement en train d'évoluer et de se professionnaliser aussi. Donc, d'où le BPJEPS maintenant qui est demandé. Il y a un bac qui est en train de se mettre en place aussi, un bac animation.
Ouais.
Alors, c'est tout nouveau, hein, le bac animation. Il était en test il y a quoi? Il y a 3 ans, je crois. Enfin, voilà, il est vraiment tout récent. Mais ils sont en train de réfléchir, effectivement, avec la professionnalisation de l'animation, aux formations également qu'il faut faire évoluer.
Il y a des possibilités de carrière aussi, puisqu'on peut monter en grade, en quelque sorte, avec des formations de directeur de centre d'animation ou des trucs comme ça.
Alors,
ouais.
Effectivement, alors les BPJF vont vite offrir cette opportunité-là, mais je sais aussi que on va des fois avoir, par exemple, des personnels de santé, hein, infirmières ou des personnes comme ça, qui vont avoir besoin de ce BAFA-là pour avoir une compétence en plus qui va leur permettre effectivement d'être plus peut-être compétitif dans le rôle. Il faut dire qu'on passe, en fait, si on prend l'histoire, à une époque où c'était les jardins d'enfants, les gardes d'enfants, il fallait occuper les enfants après les guerres avec tout ce qu'il y avait, à une formation qui est devenue vraiment, en termes d'éducation, mais aussi en termes de formation, plus conséquente. D'autant plus qu'on se rend compte aujourd'hui que en termes de soft skills, de compétences, de qualité professionnelle et personnelle, mais ce sont des choses qui sont demandées par les entreprises. Donc, on vit avec eux au quotidien, apprendre le vivre ensemble, la mixité, en plus en termes de connaissances aussi. Chacun arrive avec une histoire, d'où le principe de l'éducation populaire. Chacun une histoire, une expérience, et tout ça contribue vraiment à faire avancer le public et l'environnement.
Je voulais vous demander aussi si, à votre avis, le monde est devenu plus exigeant.
Je pense, oui. Je pense, je prends un exemple tout bête, hein, et c'est un peu une complication, et en même temps, on n'a pas le choix, on le comprend. Les accueils collectifs de mineurs ont un but, c'est la collectivité, la mixité, avec un objectif de rendre le public un peu plus autonome et ainsi de suite. Mais nous vivons avec eux tout le temps. On peut dire qu'on a, ça commence au niveau de la petite enfance. Aujourd'hui, le travailler avec les enfants n'est plus si aisé que ça. En termes de proximité, d'intimité, un garçon ne va pas toucher une jeune fille, et ainsi de suite, avec tout ce qu'il y a eu. Donc ça devient plus difficile. Alors aujourd'hui, on voit aussi, ben, on fait face aussi à ce qu'on voit un peu partout, hein, en termes de violences sexistes, sexuelles, en termes d'agression, en termes de beaucoup de choses. Donc oui, ça devient d'un côté à raison, à souhait, on attend plus de choses, mais en même temps, ça devient aussi plus compliqué de faire ce travail-là.
Mais justement, là, tu as dit qu'il y avait de la mixité, qu'il y avait de la collectivité, mais est-ce que vous abordez les problèmes de laïcité ou comment vous pouvez aborder ce sujet-là? Parce que je sais que c'est un sujet qui est très touchy, qui pose problème. Il y a des formations à la laïcité pour les gens qui, comme vous, forment et tout. Comment vous arrivez à transmettre ce message à travers votre formation à destination du public, des QPV, des QPOP et même de l'ensemble de la population?
Alors, ce qui est déjà intéressant, ce qui est déjà bien, c'est qu'on se base sur, parce qu'on part vraiment du principe de l'éducation populaire. Oui. Nous, en tout cas, nous, dans notre pédagogie, l'une des premières des choses, c'est déjà de partir de la représentation du public qu'on a. Que ce soit ce qu'on accueille ou nos intervenants, l'idée, c'est déjà ça. C'est de partir de leur représentation, de ce qu'ils comprennent. Et en partant de ça, on fait la juxtaposition avec le cadre réglementaire de ce que c'est. Sans oublier que, d'un côté, nous, on est association loi 1901, avec une certaine ouverture, une certaine plage en termes d'exercice et de proposition, ce qui va être, je ne sais pas l'opposition, mais qui va être un peu le parallèle à la possibilité que va avoir notamment les fonctionnaires et notamment les services et d'État. Maintenant, le problème, effectivement, comme tu le dis, il y a tellement de choses autour de la laïcité, et des fois même ce qu'on entend à l'atelier, c'est complètement aberrant, mais on a quand même des ressources qui sont très claires, pourtant, et très très simples, et qui finalement, comme on le dit, la laïcité au final, c'est pas un cadre qui interdit, mais qui donne juste un espace à tous de s'exprimer tels qu'ils sont en fonction de leurs croyances, ainsi de suite. C'est pas, et c'est ça, en fait. C'est qu'il faut qu'on comprenne que voilà, c'est pas une question d'interdit, mais c'est juste un cadre qui, non seulement permet à chacun de s'exprimer en respectant les uns et les autres.
Ok. On va revenir un peu sur Origine, sur l'association. Vous faites combien de sessions de BAFA par an comme ça? Vous en faites plusieurs ou comment ça marche?
Alors oui, on en fait plusieurs. Alors nous, pour l'instant, on n'intervient que sur les périodes de vacances scolaires. Et donc, en période de vacances scolaires, on va prendre les petites vacances. On peut proposer jusqu'à
8 sessions. 10 stages.
8, ouais, alors, ça dépend on va des dire périodes. Entre 7 et 10.
D'accord.
Selon les périodes.
Mal, ouais.
Voilà.
C'est
ça. Sur Paris, on va proposer entre 2 et 4 sessions. Et puis, on a d'autres sessions avec un partenaire qui peuvent se faire du côté de Pantin. D'accord.
Vous n'êtes pas simplement implanté dans le 13e, mais vous êtes sur plusieurs sites.
Ouais.
Donc, on a le 13e, on a Pantin.
On a le 93.
Le 93,
oui. Montreuil et tout.
Montreuil, c'est le 94.
Ah bon, je crois que c'était 93.
Je sais pas, non, c'est peut-être encore 93.
Non, 93. En tout cas, Montreuil.
Et c'est le 9-3.
Pantin, Aubervilliers, c'est le 9-3. Le 9-3 et tout ça. Pendant un moment, on était aussi dans le 94, mais là, on n'a plus les salles parce qu'on se bat beaucoup aussi un peu avec.
Donc ça veut dire que vous voyez
quoi? On cherche beaucoup de salles.
Ah ouais, ça comme tout le monde. Je peux dire, toutes les associations cherchent des locaux.
C'est ça.
On est bien placé pour le savoir, nous aussi. Du coup, ça fait que vous voyez combien de jeunes à peu près, en gros, à la louche, à la Poquelin, ce que tu veux, à la Caterpillar. Vous voyez combien de jeunes? C'est plutôt 50, c'est plutôt 100, c'est plutôt...
À l'année?
Oui.
En moyenne, on peut avoir des stages où on va avoir les petits stages qu'on a, c'est 17.
Ah ouais.
Et sur les stages où on a des salles qui nous le permettent, on peut monter jusqu'à 40 stagiaires.
Mais ça veut dire que vous avez une sacrée équipe derrière tout ça.
À Oudiné, on peut monter à 40 par exemple.
40
ouais.
Et Oudiné, vous en faites souvent donc, des stages ou pas?
Eh bien, un par
chaque
période
vacances,
de vacances, au moins un par période de vacances. Ouais.
C'est bien, ça vous convient? Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui nous écoute là-haut.
Oui,
dans ce
bien sûr, ça nous convient.
Si vous avez des messages à passer, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais.
On est heureux à Oudiné.
Pour nous, c'est...
Ah, la Fayotte.
En tout cas, pour moi, c'est vrai. Pour moi, c'est peut-être le meilleur partenaire qu'on a jusqu'ici.
T'es bon, la prince, t'es bon. T'as eu 10 points d'un coup, là.
Non, mais sérieux, c'est vrai. On a beaucoup de chance d'avoir ce
partenariat.
Franchement, en plus, pour un petit organisme, en termes d'organisme de formation, on a débuté ça fait pas longtemps. Oudina était aussi un peu formateur pour nous aussi, en termes de conseils, en termes de visibilité, d'accompagnement et tout ça. Oui. Non,
c'est vrai que Oudina met le pied à l'étrier pour beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes et dans beaucoup d'activités différentes. Mais on va arrêter là parce qu'il va plus pouvoir sortir du bureau, il va avoir les chevilles qui enflent.
C'est vrai qu'on a un grand partenariat avec eux parce qu'on a le côté BAFA, puis on a le côté aussi animation, accueil des enfants, où on a un lien avec eux aussi.
Ok, voilà. On a vu la danse, on a vu le BAFA. Est-ce qu'il y a une autre activité que vous voulez mettre en avant qu'on passe à la chanson que tu as choisie?
Oui, alors nous, dans le cadre de l'accompagnement de nos équipes en termes de formation, de nos formateurs, alors ça va aussi s'élargir après. Origine fait aujourd'hui partie du consortium anti-Guyane Erasmus+. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on a la possibilité d'emmener notre public comme notre personnel sur des échanges européens autour de plusieurs thèmes de formation où, à la fin, derrière, ils reçoivent quand même une certification qui est reconnue au niveau européen. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et on aimerait plus tard ouvrir ça encore un peu plus aussi, notamment sur les colos. Mais bon, on a une autre activité dont on parlera...
Qu'on parlera après. Ok.
Moi, je peux rajouter.
Oui, vas-y, Michel, je t'en prie.
Dont ils ne parlent pas, parce que je pense qu'ils sont un petit peu. C'est que Origine participe souvent comme partenaire à d'autres activités. Je prends par exemple PopulArt.
Oui.
Voilà.
Oui,
faut que tu dises que c'est PopulArt, Michel.
PopulArt, c'est un festival qui a été créé il y a quelques années, qui s'est passé sur le stade qui s'appelle de maintenant.
Le stade Pelé, maintenant.
Moi, je les côtoie depuis quelques années et je les vois souvent être des partenaires d'autres activités avec d'autres associations, dans des collectifs, dans des coordinations. Et ben, je voulais leur, déjà les remercier pour ça.
Bah, c'est un plaisir. Hein. On en parlera pareil avec l'accueil d'enfants, enfin l'animation.
Voilà, on va en parler dans une deuxième partie de l'émission. Ce qu'on va faire tout de suite, on va tout de suite lancer l'émission, le morceau choisi par Prince, qui nous expliquera après pourquoi il a choisi ce morceau.
Mon Paris est fait.
De retour dans les studios de Mon Paris FM, toujours avec l'association Origine, toujours avec Prince et avec Barbara. Michel aussi, qui est là en train de nous faire de la vidéo pour qu'on puisse nous retrouver sur les réseaux. On vient donc d'écouter Terre de Corneille, parce que j'ai oublié de l'annoncer, donc du coup je le dis après. Prince, pourquoi tu as choisi ce morceau ?
Origine fait sa première radio, en plus on peut se présenter. Et j'ai choisi ça parce que ça explique un peu mon parcours et mon histoire pour arriver un peu à Origine, on va dire. Mmh. Et je pense que c'est plein de sens pour moi. qui suis d'origine congolaise et qui suis arrivé en France quand même plus qu'ado, on va dire. Et très vite, je me suis tout de suite impliqué dans, on va dire, au niveau de la société française. Très vite, j'ai travaillé dans les associations. Et aujourd'hui, on le voit aussi, quand je rentre, partout où je vais, je me rends compte qu'on reste un étranger au final, quelque part. Et qu'il faut à chaque fois trouver le moyen de s'intégrer et de faire sa place, en fait. Et je trouve que finalement, partout où on va, on peut avoir une place, du moment où on le veut et du moment où on nous permet de l'avoir. Donc aujourd'hui, je me consacre complètement ici pour les enfants et les jeunes du quartier en France, dont j'ai fait pas mal de choses. Et oui, c'est ma patrie. Et même en termes de symbole, le mot terre, c'est un ancrage. Et même dans chaque projet qu'on va commencer, qu'on va lancer, c'est comme si on arrive à chaque fois dans une nouvelle terre où il faut trouver à chaque fois le moyen de s'ancrer, de partager, d'accepter et de reconnaître l'autre, ainsi de suite. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui de dire qu'on est de quelque part.
Bah bravo, franchement. Donc, voilà. Je reste bouche bée là. C'est très beau ce que tu nous as dit là, franchement très chouette.
Bon, je pense en tout cas.
Barbara, tu voulais intervenir toi.
Oui, alors du coup pour parler d'un autre aspect d'origine, du coup on a dit qu'on avait un accueil de quartier à Chevaleret qui accueille les 6-14 ans, qu'on a ouvert en 2020.
Oui.
L'objectif de cet accueil était d'aller sur le terrain, d'aller dehors et de récupérer les enfants. C'est pas très joli dit comme ça, mais de récupérer les enfants qui traînaient un peu tout seuls sur l'espace public, qui n'avaient pas vraiment d'occupation, et de leur proposer des activités. Donc voilà, on a été très soutenus par la ville, par l'État, par les bailleurs sociaux, par la CAF, pour monter ce projet. Et du coup, on a ouvert ce local pour leur proposer des activités gratuites.
Il est où ce local ?
Alors, il est au 22 rue Regnault.
D'accord, c'est donc connaissent, c'est au bout du bâtiment qu'on appelle La Banane, le G20.
C'est ça, exactement.
Le long de la future promenade de la petite ceinture.
Tout à fait. Et du coup, voilà, l'idée était de leur proposer des activités pour qu'ils soient occupés plutôt que traîner dehors.
D'accord. Ça fait partie des projets des quartiers prioritaires. Vous travaillez avec l'EDL, vous travaillez avec ces structures-là.
Oui, avec la ville, quoi. Enfin, la ville, l'État, tout ça.
L'EDL qui sera, et la CAF qui seront reçus aussi à l'intérieur de l'émission. On se fait notre pub.
T'as raison. Et du coup, voilà, donc on a ouvert. Au début, on avait pas énormément d'enfants. Venant tous les deux du monde de l'animation, on a décidé d'ouvrir ça, pas complètement comme un accueil de loisirs, mais voilà, on a ouvert très rapidement, assez tout le temps, et en gardant par contre le principe des structures pour les plus grands, en créant un accueil libre où les enfants peuvent venir quand ils veulent, repartir quand ils veulent, sans forcément être inscrits vraiment à dire « je viens tel jour », etc. Parce que c'est des enfants qui sont très autonomes déjà, qui allaient faire leur petite course tout seuls, qui étaient déjà...
À 6 ans.
Il y en a qui vont acheter leur goûter tout seuls, les parents travaillent, ils ne sont pas là. Donc l'idée était de leur proposer un accueil assez ouvert pour pas qu'ils se sentent enfermés et que du coup, ils n'aient pas envie de venir, en fait. Donc, du coup, ça a pas mal fonctionné. Maintenant, ils sont là tout le temps. Ils se sont bien approprié l'accueil. Donc, on les a bien du début à la fin.
Est-ce que c'est un accueil qui est basé sur le loisir ou vous faites aussi de l'aide aux devoirs? Ou comment ça marche?
Alors, à la base, on était basé sur le loisir. L'idée, c'était d'avoir un lieu sécurisant pour eux et de les accompagner à grandir dans leur vie, à répondre à leurs questions quand ils se posent des questions, à être là pour eux, à travers le loisir, bien sûr. Et on a quand même une forte demande des familles pour l'aide aux devoirs, et donc on a mis en place l'aide aux devoirs. Donc on fait de l'aide aux devoirs les mardis, jeudis et vendredis soir. Et puis, plus les loisirs, les mercredis après-midi, les samedis après-midi, puis les vacances scolaires. Et d'accord. Après, effectivement, on travaille dans le sens de l'éducation populaire et comme dit Prince, on part souvent de ce qu'ils sont eux. Et on est en train de créer un conseil d'enfants.
Ah oui?
Avec eux pour voir. Alors avant, on faisait des réunions. Les premières réunions, c'était un peu compliqué, mais maintenant, ça y est, ils arrivent à s'écouter parce que ça, c'était une première étape difficile. S'écouter, écouter les autres sans se moquer, sans tout ça, c'était compliqué.
Ils sont arrivés petits, oui, c'est ça. On commence à grandir, voilà. Déjà un peu. Là.
Donc il y a eu un long travail là-dessus. Et du coup, on part souvent de leurs idées, de ce qu'ils ont envie de faire pour mettre en place après les activités, etc. Et on en est arrivé à faire un séjour de vacances, du coup.
Plus d'un séjour.
Oui, plus d'un. Maintenant, on est à la cinquième année, là.
Et vous allez où?
Alors, cette année, on va partir en Bretagne, mais on a été en Vendée, on a été en Bretagne, un autre endroit. En fait, c'est pareil, c'est choisi avec les enfants. En fait, tout vient des enfants. Ils auto-financent à leur niveau le séjour, c'est pareil. Ils font des actions, ils fabriquent des petits objets qu'on vend sur les fêtes de quartier, où on va faire un peu de porte-à-porte. Enfin, voilà, ils contribuent.
Ils contribuent, je pense qu'ils ne peuvent pas payer la totalité.
Non. Mais alors,
les colliers de nouilles, ce n'est pas vendu très cher.
Mais à leur niveau, ils arrivent quand même à aller. Ils ne se débrouillent pas trop mal.
Non,
ils arrivent
bien,
à gagner 1 000 euros,
c'est
1 000 euros quand même sur, leur, sur l'année. Donc, ce qui est quand même
bien.
Ce qui paye une ou deux activités sur le séjour. Enfin, voilà, c'est le contrat qu'on avait avec eux. Et par contre, du coup, effectivement, on choisit le lieu, on choisit les activités avec eux en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, voilà, on fonctionne beaucoup comme ça. Et donc, actuellement, ça y est, on a atteint le plafond du nombre d'enfants qu'on peut accueillir. On commence à être un peu à l'étroit dans nos locaux. Mmh. Effectivement, on est parti de 6 enfants. Et là, maintenant, on a à peu près une trentaine d'enfants d'inscrits, voire 35. Et par accueil, on a facilement, là, pour les vacances, on a une vingtaine d'enfants pour les vacances, là, sur chaque jour.
Et dis donc. Et donc, il y a tout le temps quelqu'un qui est présent dans les locaux, je présume,
oui.
Du coup.
Oui, oui.
D'accord. Combien vous avez de permanents?
Alors, de permanents, on est 2. On a accueilli cette année 4. Ouais, on est 4 maintenant.
4 permanents.
On est 4 permanents. On a accueilli un apprenti. Comptable. Parce que ça se développe et qu'administrativement et tout ça, on a besoin d'un peu de. Voilà. Et puis, on a un animateur aussi, presque 2 maintenant, mais en tout cas, on a deux animateurs qui sont là aussi à l'année pour s'occuper des enfants.
Ça se développe.
Qui sont des jeunes du quartier d'ailleurs.
Ah, bien.
Voilà,
sympa.
Donc c'est des plus grands qui sont venus.
Que tu as vu grandir ou...
En tout cas, moi, que j'ai vu grandir, que j'ai eu en tant qu'animateur à Franoa. Et...
D'accord. Voilà, c'est sympa, ça.
Moi, je n'étais pas encore là. Moi, je les ai découverts en BAFA parce qu'ils sont venus passer leur BAFA avec nous.
C'est vrai.
Et c'est comme ça qu'on les a recrutés, d'ailleurs.
Tiens, puisqu'on parle. On est revenu sur le BAFA. J'avais une question que j'avais oublié de vous poser tout à l'heure. Le BAFA, c'est payant, c'est pas payant? Comment ça marche? Est-ce que moi, je veux passer mon BAFA, je paye combien?
Alors,
enfin, combien je m'en fiche, mais je paye, je paye pas ou
Alors,
comment
c'est
ça
payant,
se passe?
On a un prix qui est proposé au public. Après, en fonction des partenariats qu'on a, l'idée aussi, c'est de faciliter l'accès à la formation pour certains, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mmh. Mais effectivement, on a un prix de départ qui est proposé au public, 370 pour la première session, 320 pour la deuxième session. Et après, en fonction des partenariats, il y a des choses qui se mettent en place. Après, par exemple, avec Oudjiné, on a un partenariat particulier qui fait qu'on peut aller jusqu'à prendre... à titre onéreux des personnes.
D'accord, ok. Et c'est quelque chose qui peut être... Si par exemple, je suis en train de pointer à France Travail, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, France Emploi, France Travail, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mmh. Est-ce que ça peut rentrer dans des choses qui sont accessibles, enfin qui peuvent être financées par ce genre d'organisme ou pas?
Effectivement, on a des communes, des mairies, ou effectivement des structures, des organismes comme France Travail, effectivement, qui peuvent financer
les missions locales aussi.
Les missions locales qui peuvent financer des formations et tout ça.
D'accord.
Alors, selon le statut aussi, on peut être remboursé, notamment par la CAF, en remplissant un document qu'on rapporte et tout ça. Donc ça, oui, ça peut être...
Donc ce qu'on va retenir, c'est que c'est des formations payantes, mais qu'il y a beaucoup d'aides autour d'organismes ou de centres comme ici qui peuvent participer en partie ou totalité pour qu'on puisse passer son BAFA.
Voilà,
c'est ça l'idée.
C'est ça.
Donc ce n'est pas un frein.
C'est pas
ça
un frein.
Ça peut pas être un frein.
C'est pas un frein. Nous proposons notamment aussi, par exemple, aux stagiaires qu'on a eus, s'ils décident de revenir avec nous pour une prochaine fois, bah, de ne pas payer, pareil, le prix proposé au départ. On leur fait une réduction.
D'accord. OK. Barbara, continue, ouais. Je t'ai coupé la parole, désolée.
Il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, on fait plein de choses avec les enfants et bah, également, on participe, bah, comme a commencé à le dire Michel tout à l'heure, du coup, au niveau de l'animation, alors on a l'accueil qui est de 6-14 ans. Après, des fois, on les suit un peu encore après, quand ils grandissent. Et on participe pas mal à toutes les fêtes de quartier, les coordinations sud-ouest. Effectivement, c'est avec l'EDL où on se retrouve avec plein d'associations, il y a des collectifs d'associations et tout ça, pour organiser des événements. Il y a une semaine, on avait fait la semaine sur le développement durable. Enfin voilà, on a plein d'activités comme ça, où on va participer sur des événements, sur des...
C'est riche tout ça, c'est
sur
très
des
riche,
choses comme ça, et c'est hyper intéressant, parce que dans le 13e, pour le coup, il y a vraiment un réseau associatif qui fait beaucoup de choses et on travaille de plus en plus ensemble et ce côté-là est très agréable.
Voilà, c'est vrai que c'est un arrondissement, il y a beaucoup, beaucoup d'associations.
Ouais.
Et c'est vrai que les associations qui ont l'habitude de travailler en quartier prioritaire, quartier populaire, donc QPV, QPOP, ce sont des associations qu'on retrouve dans certaines réunions et qui se renvoient la balle et qui font à peine les unes aux autres.
C'est ça.
Et c'est réellement une très bonne atmosphère et c'est très riche, c'est très chouette.
Ouais.
Et moi, je le vois ici en me baladant un petit peu dans le QPV maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose qui a bien pris et qui est très plaisant et qui aide beaucoup la population.
Bah, et puis entre nous aussi, c'est une richesse de pouvoir croiser les autres associations, de pouvoir échanger, de pouvoir, enfin voilà, moi je me nourris de ça aussi, hein. C'est très riche d'avoir les autres et de se dire tiens, parce qu'on rencontre tous des problématiques, et se dire tiens, on n'est pas seul, l'autre association aussi, et plutôt que se tirer dans les pattes, voilà, on est ensemble et on se soutient, et du coup ce qui crée aussi tous ces événements qu'on peut faire ensemble et c'est ce qui fait la richesse aussi de tout ce qu'on peut proposer, quoi.
Ok, Prince, on va peut-être aborder le futur d'Origine. Mm-hmm.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer pour Origine dans les semaines, mois, années, siècles à venir?
On aimerait bien grandir encore un peu plus. Déjà, rien qu'en termes matériellement, en termes de locaux, parce que comme tu entendais un peu... Et là, elle te parlait du nombre d'enfants qui est bloqué.
Ouais.
Mais on a beaucoup de demandes de parents qui viennent, qui veulent inscrire les enfants. Donc rien que ça, avoir des locaux. De plus en plus avec on peut plus de moyens, plus de matériel. Et ça devient vraiment petit pour stocker un peu tout ça. Et puis, effectivement... depuis qu'on a commencé aussi à travailler dans le cadre de l'Union européenne... On a eu de la demande, on a eu des projets qui naissent avec éventuellement, pourquoi pas, Origine en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe.
C'est génial,
donc,
ça.
Donc, si on pouvait vraiment, ce serait super.
T'as pas prévu de faire des émissions radio là-bas?
Oh, mais...
Parce que moi, je connais quelqu'un qui est prêt à y aller.
Ça, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas Erasmus+. C'est une manne, mais au-delà de ça, alors quand je dis une manne, surtout en termes d'accompagnement et de moyens mis en place pour déjà le public, dans l'idée de découvrir un peu l'Europe, d'autres personnes, ainsi de suite, mais même en termes de formation, en termes d'évolution des associations, il y a pas mal de choses qui se font. Donc même avec la radio, il y a des projets qui peuvent se mettre en place. Ça rentre dans ce qui est proposé par le programme.
Si tu veux faire une formation sur place à la radio, je prépare ma valise tout de suite.
Ah, mais ça peut se monter.
Ça
peut s'organiser. Hein. On monte un projet, on part, et reportage, émission sur place, retour, échange avec encore d'autres. Il y a des trucs super qui se font.
T'as bien fait de failloter avec Daniel tout à l'heure, comme ça. Il faut marquer sur son carnet, ok.
Okay, émission en partenariat avec un enfant, c'est super, c'est bien ça.
Ok. Donc ça, c'est le premier projet. Il y a d'autres projets encore? Il y a d'autres choses qui doivent évoluer?
Évoluer aussi dans
le BAFD. La formation BAFD.
Justement, voilà. Là, on est en train de préparer, on fait notre demande, on va faire la demande pour avoir l'agrément pour le BAFD, parce que là, on forme au BAFA, mais il y a le BFD qui concerne les directeurs. Donc, on prépare ça aussi. Et puis, bon, ça, c'est vraiment des trucs qu'on voit comme ça. Pourquoi pas continuer à évoluer aussi dans les formations professionnelles comme le BPJEPS et tout ça. Moi, notamment, j'ai la qualification pour former dans le cadre professionnel. Mmh. Et puis, on peut aussi proposer, alors ça, c'est un truc qu'on avait déjà expérimenté avec la CAF, des formations notamment pour le personnel de la CAF. Donc, proposer aussi des formations internes à des partenaires ou à d'autres entreprises. Et puis, bon, au niveau de l'accueil, continuer avec les centres de vacances, acquérir des locaux, acquérir nos propres infrastructures un peu. Mmh. Parce que nous, on est petits comparé à certains organismes qui sont là depuis 45, 60, 70 et tout ça, et qui ont, eux, le monopole, on va le dire comme ça, hein, du marché un peu de l'animation. Donc, on aimerait aussi un peu plus compter et dire nous sommes là.
Mmh. Bon, ceci étant dit, ils ont le mérite d'exister, ils ont le mérite de structurer un petit peu quelque chose qui avait besoin d'être structuré. Maintenant, laisser de la place aux autres, c'est pas plus mal non plus, on est d'accord.
Voilà.
Ok, bah écoutez, on y va plus clair. Franchement, j'ai appris plein de choses, déjà sur le BAFA, mais sur votre association, votre façon de faire, sur votre état d'esprit. Je dois dire que c'est très plaisant. On va rester avec vous pendant une partie de l'émission, mais avant ça, bah écoute Barbara, tu as choisi un titre, tu nous le présentes ?
Ouais, alors j'ai choisi « Il changeait la vie » de Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Pourquoi ? Parce que dans cette chanson, il parle de personnes qui sont très simples, en fait. Un professeur, j'ai perdu le mot, hein, quelqu'un qui répare les chaussures. Un cordonnier. Enfin, des gens qui font des choses très simples et qui par leurs choses, leur profession et leurs petites choses qui donnent aux autres, embellissent la vie des gens. Je trouve ça chouette comme message de se dire qu'il n'y a pas besoin de faire des grandes choses ou d'avoir des grands projets ou d'être vraiment quelqu'un pour pouvoir essayer d'apporter un peu de bonheur aux gens et que juste une petite pierre, des fois, change la vie de quelqu'un.
Citoyenneté.
En fait, tu pensais un peu à vous en même temps. Non.
Ça me correspond. C'est quelque chose qui me correspond, en fait. C'est vrai que je me dis que voilà, si chacun ramène une petite pierre et puis aide, ne serait-ce qu'à un tout petit niveau, si on s'entraide, ne serait-ce qu'à un tout petit niveau, la vie, elle est plus simple parce que la vie, elle est difficile.
Pour tout le monde, oui.
Et que si on ne s'entraide pas un tout petit peu, c'est dommage, quoi.
Ok, écoute, on écoute la chanson et on se retrouve juste après.
Ça marche.
Particulier dans un village dont le nom m'a échappé, faisait des souliers si jolis, si légers que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Changeait la vie.
un tout petit bonhomme, malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il imite en temps de l'armée de douleur, il rêve de sa vie, les prisons de son cœur, et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris. Il chantait la vie.
C'est vrai qu'elle est réellement superbe cette chanson, c'est un très très bon choix, franchement ça donne la pêche, c'est vrai que les paroles ont un sens, bah, comme toutes les chansons de Goldman d'ailleurs. Hein. On était en train de dire hors micro que franchement c'était un mec...
En or.
Voilà, c'est le cador, c'est l'empereur, c'est, franchement c'est un mec génial. Je voulais réellement vous remercier d'être venu, je voulais vous remercier du temps que vous consacrez à notre émission, le fait d'avoir passé tout un tas de messages, parce qu'il n'y avait pas que la présentation de votre association, il y a aussi tout ce que vous avez passé comme message, et un très très grand merci. On va donc passer maintenant à la suite de notre émission. Alors, vous avez remarqué au départ que je n'ai pas présenté Monsieur Théo ni Mister Léo. Monsieur Théo et Mister Léo sont en formation, justement. Mais on a quand même la joie de pouvoir joindre Monsieur Théo. Monsieur Théo qui va nous faire une rubrique sur le cinéma. C'est bien ça?
Bonjour Claude. Alors, on va encore une fois remonter un tout petit peu en arrière. Nous allons faire ensemble un résumé de la cérémonie des Césars de cette année. Alors, cette 51e cérémonie était présidée par Camille Cotin et brillamment animée par Benjamin Laverne. Du rythme, du chant, de la danse et beaucoup d'humour. Ça faisait assez longtemps qu'une soirée des Césars n'avait pas été aussi plaisante à suivre. Jim Carrey a reçu un César d'honneur et pendant toute la cérémonie, les hommages et les éloges se sont succédés. Pour les récompenses, rentrons dans le vif du sujet directement. L'attachement de Karim Tardieu remporte le César du meilleur film et succède à Emilia Pérez. Ce film délicat remporte deux autres statuettes. Vimala Pons est récompensée pour le meilleur second rôle féminin et le film remporte la meilleure adaptation. Seule Nouvelle Vague fait mieux avec 4 Césars, meilleure réalisation, meilleur costume, meilleure photographie et meilleur montage. Laurent Lafitte remporte le César du meilleur acteur pour La femme la plus riche du monde et Léa Drucker est récompensée pour Dossier 137 où elle joue une enquêtrice de l'IGPN, dans l'affaire des Gilets jaunes. Côté animation Arco, Hugo Bienvenue glane 2 Césars, meilleure musique et meilleur film d'animation. Pierre Lotin remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle dans l'adaptation du chef-d'œuvre d'Albert Camus, L'étranger. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson est nommé meilleur film étranger. Nadia Meliti est la révélation féminine de l'année. Théodore Pellerin, révélation masculine pour son rôle dans Nino. Et je termine par une belle histoire. Un an après son sketch plein d'humour, recevant un Césario symbolisant le fait qu'il n'en aura jamais, Franck Dubosc a reçu son premier César en carrière, celui du meilleur scénario original pour son film Un ours dans le Jura. Cette comédie mêlée à un thriller glaçant avait rassemblé plus de 1,5 million de spectateurs en salle. Prochain rendez-vous du cinéma le 15 mars prochain pour la cérémonie des Oscars. Il va falloir rester éveillé car la soirée débute à 1h du matin pour nous.
Eh bien écoute Théo, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que pour une fois, on ne s'est pas ennuyé. Pour une fois, l'animation était très très bonne. Et maintenant, en fait, Théo, bah, tu vas nous présenter le titre que tu as choisi.
Pour mon son, moi j'ai choisi California Dreaming de The Mamas and The Papas. Alors c'est un son entre guillemets assez vieux, mais je l'aime beaucoup pour toute l'énergie qu'il dégage. C'est-à-dire que quand je l'entends, j'ai envie d'être en voiture, j'ai envie de partir en vacances. C'est l'été, il n'y a plus aucun problème. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce son-là.
stopped into a church. I passed along the way.
Très très bon choix, pardon, monsieur Théo. On était tous en train de danser d'une fesse sur l'autre dans le studio. Et franchement, c'était un très très bon choix.
C'est maintenant, c'est la rubrique de Claude.
Bien, bah écoutez, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, le thème de mon édito de cette semaine sera sans surprise en rapport avec la guerre des États-Unis et d'Israël contre les dirigeants iraniens. Alors bien sûr, on ne peut que se réjouir de la neutralisation, bah c'est le mot à la mode pour dire la mort, des dirigeants iraniens. Comment ignorer les milliers de morts, je dis bien les milliers de morts, que le guide suprême de l'Iran a sur sa conscience ? Comment ignorer la mise à mort des hommes politiques, des syndicalistes, des libertés des femmes, la mise à mort des minorités, la mise à mort des jeunes étudiants et étudiantes, des filles aux cheveux dans le vent, des filles ne voulant pas porter le tchador, que cette ordure et son entourage ont ordonné minutieusement orchestré. Oui, la disparition de la surface de la Terre de ces larves, de ces déchets humains est une très bonne chose. Mais voilà, s'arrêter à ce constat est peut-être un peu court. Qui est à la baguette de cette guerre ? D'une part, un vieil homme sénile, prétentieux, sans aucune retenue ni vis-à-vis des femmes, ni vis-à-vis des contradicteurs politiques, ni vis-à-vis des États du monde. Un homme qui se donne tous les pouvoirs, aussi bien dans son pays qu'en dehors de ses frontières. Un homme qui se prend pour le guide suprême des États-Unis. Tiens, guide suprême, ça vous rappelle pas quelque chose ? D'autre part, un premier ministre d'un État religieux qui utilise la guerre pour se maintenir au pouvoir, pour museler son opposition. Un premier ministre qui n'a pas hésité à affamer toute une population en autorisant la mort de milliers de civils palestiniens, à autoriser la colonisation des terres appartenant depuis des siècles aux habitants de la Cisjordanie. Tiens, cela ne vous rappelle pas les méthodes d'un guide suprême ? Allons encore plus loin dans l'analyse de la situation. Est-ce qu'il est normal qu'un type décide tout seul dans son bureau ovale ou au bord de sa piscine des bons et des mauvais ? De ceux qui doivent être enlevés dans leur pays et emprisonnés sur le territoire des USA. De mettre en prison des enfants de 5 ans parce qu'ils ont la mauvaise couleur de peau. D'encourager la mort des manifestants en utilisant la tristement célèbre ICE. Non, ce n'est pas normal. Tous les États se sont réunis dans une instance internationale pour délibérer, agir, accompagner, juger, aider, sanctionner les dirigeants et décideurs des pays totalitaires. L'ONU fait partie de ces instances. Tous les pays sont membres de l'ONU. Si leur fonctionnement ne convient pas, alors tous les pays doivent en discuter, se mettre d'accord pour faire évoluer la charte commune. Mais en aucun cas, c'est un homme et ses piètres alliés de prendre des décisions aussi importantes que de faire la guerre, de kidnapper un président en exercice, de mettre en place un blocus pour affamer d'autres peuples. Alors oui, je me réjouis de la mort des dirigeants iraniens. Oui, j'espère que le peuple iranien pourra se doter d'une nouvelle constitution, de nouveaux dirigeants démocrates, de retrouver la joie de vivre ainsi que l'accès à sa belle culture. Oui, j'espère que des élections réellement libres pourront permettre au peuple américain et au peuple israélien, qui lui aussi a tant souffert, de se débarrasser de ces deux dangereux manipulateurs. Alors restons vigilants vis-à-vis aussi bien du fils du Shah et de son entourage qui a le sang de son père et d'un système sur ses mains, que de cette épave sénile et dangereuse qui occupe la Maison Blanche.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
De retour dans les studios de Mon Paris FM, je ne vous cache pas que tout le monde a écouté mon édito et surtout on a écouté la très très bonne chanson de John Lennon qui fait appel à la paix. Prince, on a discuté hors micro et tu me disais un petit peu que toi venant du Congo, c'est quelque chose qui pouvait te parler et que tu avais un certain nombre de questionnements.
Oui, d'autant plus que depuis deux jours, moi c'est quelque chose qui tourne en boucle dans mon esprit. Et hier encore, je me suis levé avec un sentiment de vide. Et j'étais avec les collègues et je n'ai pas arrêté de tourner en me demandant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que... » Et puis, j'ai dû reconnaître que j'étais très, très angoissé. Parce que pour avoir vécu les guerres au Congo, on ne se rend pas compte. La guerre, quand elle est là, il faut la vivre, il faut la supporter. Mais il y a déjà, quand elle arrive, il y a quelque chose de très violent. On ne s'y attend pas, c'est une surprise, enfin, on ne s'y attend pas. On peut parler des guerres qui se passent en Afrique et tout ça, mais C'est un questionnement que je lance. Est-ce qu'on a vraiment conscience? Parce qu'en Afrique, on a les moyens qu'on a. Autant on est dans la pauvreté, autant on peut dire que c'est ce qui s'y passe peut être horrible, mais nos moyens restent très rudimentaires, très archaïques. Et quand on parle des grandes puissances avec ce qu'ils ont, où on peut toucher d'un pays à l'autre une nation, en fait, est-ce qu'on se rend compte que ça peut être là aujourd'hui, demain? C'est-à-dire qu'on est en train de frôler, on parle de troisième guerre, mais on la frôle déjà beaucoup depuis un certain temps. Et là, on est en plein dedans. Et moi, j'avoue que ça me stresse. On doit se poser des questions. Aujourd'hui, en plus, dans la société française, on a tous ces ressortissants aussi qui viennent un peu de ces pays-là. On a ceux qui sont rapatriés et tout ça. On va où? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il faut se prémunir en avant? Est-ce que, j'avoue que pour nous qui sommes sortis de ce genre de truc, c'est, en tout cas pour moi, je parlais pour moi, je ne suis pas très bien depuis un certain temps.
Alors, je peux te dire que tu n'es pas le seul à ne pas être très bien. On est plusieurs dans ce cas-là, parce que donc moi, je fais partie d'une génération où les parents ont connu la guerre. Donc, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, que j'ai transmis aussi à mes enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on ressent. Et je peux te dire que les gens autour de moi sont tous très inquiets. Tout le monde se rend compte qu'on a franchi une marche de plus vers quelque chose qui est difficilement maîtrisable. D'autant plus qu'on a, comme je l'ai dit dans mon édito, on a un mec sénile qui est derrière un bouton, aux États-Unis, et qu'on ne sait pas comment il peut réagir. Même les gens qui sont proches de lui n'osent plus dire comment il va réagir parce qu'ils n'en ont aucune idée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être inquiétant et qui nous interroge. Donc, ton interrogation et ta peur, je crois qu'elle n'est pas simplement pour un continent ou pour un pays, mais elle est pour l'ensemble du monde maintenant. Elle est pour l'ensemble du monde. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
Je t'en prie, mais merci en tout cas pour ton édito.
Ok. Bien, on revient un petit peu à des choses un petit peu plus gaies, plus légères. Je vais vous parler un petit peu de j'ai du mal à retrouver mon calme là, pour se vous dire. On revient c'est un évident. Petit peu au spectacle qu'il peut y avoir dans le 13e arrondissement. Je vais vous en donner deux, trois, puis après ça, on passera à la chanson directement de Michel, une fois que j'aurai fini de vous parler de ces spectacles. Donc, vous savez que je vous parle toujours de spectacles gratuits. C'est un peu l'ADN de notre émission. On a au Quai de la Photo l'expo qui jusqu'au 24 avril qui s'intéresse aux cultures clubbing. Le clubbing, c'est pas une fête, c'est un phénomène social, artistique et politique qui est né dans les années 70 au sein des communautés afro-américaines, latines et queer de New York. À travers une sélection de photographies internationales, cette exposition célèbre cette culture vibrante et inclusive des nuits disco de New York aux dance floors parisiens, des rêves européennes aux scènes queer et afro-contemporaines. L'exposition met en lumière les visages, les gestes et les énergies qui ont façonné ces nuits et continuent à écrire cette histoire. Deuxième petite information, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est quelque chose qui est très important et vous avez, on est le combien aujourd'hui? On est le 4, donc vous avez encore une dizaine de jours pour envoyer des photos, des dessins à l'occasion de la semaine de la presse et des médias qui est organisée par l'école Estienne en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l'association Dessiner, Créer, Liberté, ainsi que la mairie du 13e arrondissement. C'est la 33e édition du trophée Presse Citron. Ce double concours ouvert aux étudiants et aux étudiantes dessinateurs professionnels a pour objectif de soutenir et de développer le dessin de presse et la liberté d'expression. Cette année, le concours s'adresse également aux 18-25 ans, votre public, messieurs, dames, ainsi qu'aux non-étudiants, ainsi qu'aux étudiants étrangers. Alors, tous à vos crayons. On va tout de suite passer à la chanson de Michel pour que je m'en remette, parce que j'ai du mal à parler, pour tout vous dire. On passe à la chanson de Michel qui nous le présentera après.
Mon pari est fait. We'll be right back.
chance to fly on the wave. Oh, it's my time coming, I'm not afraid, afraid to die.
De retour dans les sessions de Mon Paris FM, comme d'habitude, vous avez remarqué quand même qu'on aura eu le spectre total au niveau de la musique. On a eu du Goldman, on a eu un petit peu de tout, on a eu du
Corneille,
voilà. Michel, tu nous expliques un petit peu ton choix ?
Oui, alors cette chanson, elle s'appelle Grace, G-R-A-C-E, de Jeff Buckley, qui date des années 90, en fait. Et pour la petite anecdote... je l'ai rencontré en fait à l'Élysée-Montmartre. J'étais invité par la Warner Music à écouter les différents groupes. Et quand il est arrivé, il s'est installé sur une chaise haute avec sa guitare. Et il a chanté exactement comme vous entendez.
Comme on vient d'entendre à la radio, ouais.
À la radio, exactement. Et je peux vous dire que tous les diffuseurs qui étaient là pour les campagnes promotionnelles se sont tous arrêtés de boire, de manger, etc. pour juste l'écouter.
Ok.
C'était extraordinaire. Ce qu'ils ne faisaient pas pour les autres groupes.
Hein. Oui, en général, ils continuent à manger, oui, c'est vrai.
Et voilà, cette chanson, en fait, je l'ai choisie parce que bah, il y a un peu d'actualité. Elle dit, je résume, hein, oui. qu'il faut toujours choisir l'amour, cet état de grâce, même face à la mort.
Ah ben, on continue, là. ouais, bah écoute, c'est tout à fait d'actualité. Alors là, on est tout à fait d'accord. Ok, bah écoute, Michel, merci pour ce choix. Je voulais tous vous remercier. On va laisser les chansons pour finir à Jason. C'est lui qui a choisi. Alors bon, il a pas accès au micro. Il peut pas nous dire pourquoi il a choisi ces titres-là. Mais je vais réussir. Un jour, je vais réussir à le faire parler au micro.
Il faut le faire venir de ce côté-là.
Ouais. On a réussi avec Daniel. On va réussir. Mais pas aujourd'hui. La prochaine fois, on va réussir. Jason, donc encore une fois, merci beaucoup. Merci pour votre participation.
Merci pour votre accueil.
Jason, on te passe les manettes. Tu nous passes les titres que tu veux. Avec grand plaisir, on va écouter ça.
I saw who you were with, too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight. 'Cause she knows you want me. Oh, no, but she can't love you. She can't love you like I can. She can't love you. Up to you.
La vie de tous les sports, à travers ses associations, ses secrets, ses coulisses. Retrouvez-la naturellement chaque lundi de 19h à 20h30 dans Mon Paris Sport avec Philippe Carnu et toute son équipe.